Studio Tamani, voici les informations en français.
Nous sommes lundi 27 février 2023, il est 8h à Bamako. Bonjour et bienvenue à cette édition matinale dont voici les titres. Le Mali célèbre ce lundi la journée mondiale des organisations non gouvernementales. Elle intervient dans le pays au moment où le besoin humanitaire s'accentue du fait de l'insécurité. La chasse contre les vendeurs et consommateurs de chicha se poursuit à Bamako. La deuxième phase de patrouille de l'Office central de lutte contre les stupéfiants s'est tenue ce week-end. Deux personnes avec du matériel de chicha ont été interpellées. C'est parti depuis samedi pour la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Cette année, le thème est « Cinéma d'Afrique et culture de la paix ». Le développement de ce titre dans un instant avec Assetou Kanté, Mamadi Keita est à la technique. Le Mali, à l'instar des autres pays du monde, célèbre ce lundi 27 février la Journée mondiale des organisations non gouvernementales. Cette commémoration intervient au moment où certaines ONG ont quitté le pays suite à la demande des autorités de la transition pour les populations, notamment celles dans le besoin. Les ONG ont une importance capitale dans l'amélioration de leurs conditions de vie. Le point avec Dramane Maïga.
En crise depuis plus d'une décennie, plusieurs organisations non gouvernementales opèrent au Mali, notamment celles humanitaires. Mobilisées un peu partout dans le pays, ces ONG sont plus présentes au centre et au nord du pays, les localités fortement impactées par la crise. Selon les populations de ces localités, les ONG ont un apport considérable. Elles viennent en aide aux plus vulnérables et créent de l'emploi, indique-t-elle. Les personnes qui vivent dans les zones fortement touchées par l'insécurité affirment aussi que les activités de ces organisations maintiennent la stabilité dans des localités où l'autorité de l'État est quasi inexistante. Cependant, en décembre 2022, le Mali a mis en place une commission pour suivre les ONG qui mènent des activités dans le pays. Selon le ministère de l'Administration territoriale et de la décentralisation, l'inspection faite par cette commission permet de contrôler le flux financier des ONG, ce qui évitera au maximum les risques de blanchiment d'argent, poursuit les autorités de la transition. Rappelons qu'en mois de novembre 2022, le gouvernement malien a interdit aux ONG sous financement français toute activité sur le territoire national. Cette décision réplique à la suspension de l'aide publique au développement au Mali annoncée par Paris juste avant.
Malgré certains manquements soulignés, les populations de Tombouctou reconnaissent l'importance des ONG. Elles indiquent que ces organisations contribuent beaucoup au développement local. Écoutons ces réactions recueillies par notre correspondant sur place, Alousine Faye.
Elles ont une importance capitale, comme s'ils ont des failles aussi. Ils arrivent à diminuer le taux de chômage ici à Tombouctou.
Ces ONG et ces projets aident la population en termes de développement. Mais en réalité, ce que nous constatons ces derniers temps, les ONG ne jouent plus leur rôle.
Et ça favorise surtout ce qu'on appelle le travail, l'emploi, n'est-ce pas, pour les jeunes. Tout le monde ne peut pas être, n'est-ce pas, fonctionnaire public, n'est-ce pas, de l'État.
8h passées de 3 minutes, vous avez la possibilité de réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je vous l'annonçais dans les titres, deux personnes interpellées avec du matériel de chicha, c'est le bilan de la deuxième phase de l'opération de patrouille de l'Office central de lutte contre les stupéfiants. C'était dans la nuit du samedi au dimanche à la rive gauche de Bamako. Des responsables de l'OCS rive gauche de Bamako se disent satisfaits du suivi de la mesure d'interdiction de la vente et consommation de la chicha sur le terrain. Le point avec Khalifa Goïta.
Bonsoir tout le monde. Je voudrais quand même vous demander le respect de soi-même, le respect sur les interprétés et le respect du droit de l'homme. On est d'accord?
Ces mots du commissaire de police Moussa Djibrila Maïga, coordinateur de l'opération, sont les dernières consignes aux éléments de force de l'ordre. Il est 20h35. Quelques minutes plus tard, le convoi se pointe à un chicha club à Amdalaï Asseï 2000. Ici, seuls les vigiles sont sur place et la salle est vide. Des fouilles sont menées.
Pauvre résident.
Mais aucune découverte de chicha à l'intérieur. Direction un autre point de vente et consommation. Des clients sont visibles avec un peu d'ambiance. Mais la présence des forces de l'ordre semble créer la panique. La serveuse ne dira pas le contraire, même si le lieu sert un autre cadre.
quelqu'un.
Non, on t'inquiète même pas, on a arrêté ça il y a longtemps. C'était un point de chicha, mais ça a été fermé. Ici, c'est juste un bar.
Plusieurs autres lieux ont été sillonnés aussi. Le commissaire divisionnaire Mamadou S. Koulibaly, non moins chef d'antenne de la rive gauche d'OCS de Bamako, apprécie le bilan de la soirée.
Les endroits qu'on a eu à faire, on n'a pas trouvé des consommateurs de chicha, pas des matériels de chicha. C'est des endroits où on avait interpellé des personnes, les premiers en possession des produits de consommation, la seconde personne des appareils de chicha. Ces deux personnes interpellées seront présentées au parquet, c'est la loi qui sera dite.
Notons qu'une cinquantaine de personnes avaient été interpellées et beaucoup de matériel de chicha saisi lors de la première patrouille à la rive droite de Bamako. C'était dans la nuit du 14 au 15 février dernier.
Direction Burkina Faso où le coup de clap d'ouverture de la 28e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou a été donné samedi dernier. La cérémonie d'ouverture s'est tenue en présence de plusieurs personnes. Le Mali, invité d'honneur de cette année, est représenté par une forte délégation avec à sa tête le Premier ministre Choguel Koukala Maïga. Retour sur la cérémonie d'ouverture du FESPACO 2023 avec Madougou Hamada.
Ces notes de la Koura Mandeng de l'artiste Sidiki Diabaté ont été un message de paix, d'union et de fraternité entre les peuples d'Afrique. Lors de cette cérémonie d'ouverture de la 28e édition du FESPACO, le Mali, pays invité d'honneur, a montré sa présence à travers ces dames et hommes vêtus de basin blanc venus représenter fièrement leur pays. Au cours de son allocution, le Premier ministre Choguel Koukala Maïga a exprimé la reconnaissance du Mali envers le Burkina pour l'honneur fait. Le FESPACO est une vitrine et une plateforme de visibilité pour le cinéaste africain, déclare Choguel Koukala Maïga. Il a invité les peuples maliens et burkinabés à se donner la main pour vaincre le mal qui sévit autour d'eux. Il faut noter que le thème de cette 28e édition du FESPACO est cinéma d'Afrique et culture de la paix. 170 films sur près de 1200 productions cinématographiques de 35 pays seront projetés. Le Mali va présenter une dizaine de films sur 50 films inscrits. Le FESPACO 2023 se poursuivra jusqu'au 4 mars prochain.
La racine du papaye guérit l'hépatite, c'est du moins ce qu'affirme une publication largement partagée sur les réseaux sociaux. Fatmata Kodjo a vérifié cette information pour nous dans la rubrique « Vérifions du jour ».
La page Facebook Santé spirituelle et physique est l'auteur de cette publication devenue virale sur les réseaux sociaux. Le post présente un remède à base des racines des papayers susceptible de guérir l'hépatite. Il précise que la racine doit être celle du papayer mâle, c'est-à-dire qui ne fait pas de fruits, accompagnée de 3 bananes. Plus de 1400 personnes ont partagé la publication sur Facebook. Attention, ce n'est pas vrai. Cet remède n'a aucun fondement scientifique selon des spécialistes de la santé. Les derniers soutiennent que chaque hépatite a un traitement médical spécifique. Le professeur Moussa Y. Diallo, hépato-gastro-entrologue, affirme que le traitement n'est pas reconnu médicalement. Ainsi, il demande à la population de se faire consulter et surtout de faire attention aux médicaments dont le dosage n'est pas connu. La vaccination reste la meilleure moyen de prévention contre l'hépatite, en plus des mesures hygiéniques, indique l'Organisation mondiale de la santé.
L'attaque meurtrière survenue à Kanibonzon, le nouveau découpage territorial et la visite du médiateur de la CEDEAO à Bamako sont les principaux sujets qui ont marqué la semaine. Il y a eu aussi la saisie de 5000 présumées vignettes par la douane malienne à Herémakono dans la région de Sikasso. Le résumé avec Moussa Ag Mahaha.
Nous commençons cette rétrospective par cette attaque survenue jeudi soir à Kanibonzon, dans le cercle de Bankas. Une dizaine de personnes ont été tuées et 2 autres blessées suite à cette incursion terroriste. Suite à cette attaque, une manifestation a été organisée le vendredi matin dans la ville de Badjangara pour demander plus de sécurité. La validation du nouveau découpage administratif par le Conseil national de transition a aussi marqué l'actualité. Le Mali compte désormais la commune de Bamako, 19 régions, 156 cercles et 819 communes. Autre actualité de la semaine, c'est aussi la visite du médiateur de la CEDEAO à Bamako. Au terme de son séjour, Goodluck Ebel Jonathan a appelé les autorités de la transition à respecter le chronogramme convenu et à poursuivre l'inclusivité autour des réformes politiques et institutionnelles. Terminons par la saisie des 5000 présumées fausses vignettes automobiles par la douane malienne à Hermakono dans la région de Sikasso. C'était le mardi dernier à la frontière Mali-Burkina Faso.
Et c'est sur cette rétrospective de l'actualité que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.sudiotamani.org ou en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Restez à notre écoute. Dans quelques minutes, ce sera la version Bambara de ce journal, une présentation de Idrissa Sako. Mais avant tout de suite, le magazine Parlons de l'environnement. Quand le fleuve Niger tarit dès le mois de janvier au sud du Mali, de nombreux habitants de la capitale malienne se posent des questions, surtout qu'au cours du dernier trimestre 2022, le Mali a enregistré une forte crue. Comme explication, certains évoquent les effets du changement climatique. D'autres pointent du doigt les comportements de certains citoyens. Pour des environnementalistes, la construction de barrages permettant de normaliser le fleuve s'impose. On en parle dans le magazine Parlons de l'environnement. Il est présenté par Mahaman Babakunta.
Jusqu'au mois de novembre, les usagers des trois ponts de Bamako pouvaient constater un niveau d'eau assez élevé du fleuve Niger. Mais en ce moment, il est même possible de traverser le fleuve à pied à certains niveaux selon des citoyens. Ces derniers s'inquiètent de cette situation.
Cette situation me préoccupe. Ça m'inquiétait depuis très très longtemps parce qu'on voyait vraiment la descente de l'eau. On voit même souvent les cailloux en dehors de l'eau, ce qui veut dire que l'eau descend vraiment beaucoup. Je pense aussi que la descente de ces eaux, c'est dû aux déchets et aux ordures.
Vers le mois de mars, février, comme ça, déjà les gens partent se baigner. Et donc, du coup, s'il n'y a plus d'eau, comment ils vont se débrouiller? Et ce sont des endroits où les points d'eau sont super loin, en fait. Donc, du coup, c'est compliqué.
C'est une situation qui doit préoccuper tout un chacun. Je pense qu'il faut commencer dès maintenant à mettre des actions concrètes en place pour pouvoir faire face à ce problème.
Il faut souligner que cette baisse du niveau de l'eau est aussi constatée dans d'autres localités au sud du pays. Au niveau de la direction nationale de l'hydraulique, Hamidou Ouigalo affirme que cette baisse des niveaux du fleuve s'explique par plusieurs raisons.
Le tarissement est dû au fait que quand vous prenez le coup principal du Niger, cette année, la crue n'a pas tellement donné au Niger. Ça, c'est un. De deux aussi, c'est dû aux zones de propagation de la crue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la crue commence ici, c'est-à-dire le haut Niger, le haut Niger pour nous, c'est de la Guinée, ça arrive jusqu'au niveau du barrage du Makala. Donc, si on observe la crue là-bas, pour que la même crue se ressente vers, c'est-à-dire le centre et le nord, souvent il faut attendre 3 à 4 mois après.
Face à ces phénomènes, l'environnementaliste Soumana Koulibaly invite les autorités du pays à prendre des dispositions pour mettre en place des aménagements hydro-agricoles. Pour lui, ces mesures peuvent permettre une maîtrise du niveau de l'eau du fleuve Niger de Bamako jusqu'à la frontière du Niger.
Il y a beaucoup de programmes qui ont été inscrits dans ce cadre-là. Par exemple, le programme PDIBS, il y a le programme de Taoussa. C'est des programmes qui permettent à l'État de créer des barrages hydro-agricoles en maîtrise tout le lot, comme le cas du barrage de Makala aussi, qui sont des exemples permettant à l'État de maîtriser un peu, de réguler, comme on a l'habitude de le dire en termes techniques, le niveau des eaux suivant une bonne période de l'année.
Des propos soutenus par la Direction nationale de l'hydraulique. Le chef des divisions aménagement hydraulique souligne que des initiatives sont en cours pour réguler le fleuve Niger. Hamidou Ouigalo.
On est en train de voir du côté Guinée, parce qu'on a trouvé un site là-bas qu'on appelle le site de Foumi, le barrage de Foumi. Si les deux pays arrivent à construire ça, le projet est en cours parce qu'on a fait des conventions jusqu'à ce qu'on a décrété un barrage d'intérêt commun. Donc si ces deux pays arrivent à construire ce barrage va retenir à peu près 6 milliards de mètres cubes. Donc les 6 milliards de mètres cubes côté Guinée, plus les 2 milliards au niveau de Sélégué, donc ça fait 8 milliards. Donc ça veut dire qu'on peut encore réguler le Niger.
Si cette baisse du niveau de l'eau inquiète aussi des 10 pays, il faut souligner que ce n'est pas le cas au centre et au nord du pays. C'est la fin du magazine Parlons de l'environnement, réalisé et présenté par Mahamane Babakunta. À la semaine prochaine pour un autre numéro.